européenne. Ainsi, Francfort progresse de 0,24%, Londres s'adjuge 0,26% et l'Eurofirst 80 gagne, lui, 0,39%. Du côté des devises, l'euro reste toujours très ferme contre le billet vert. Les derniers propos du secrétaire américain au Trésor John Snow, qui a estimé que le G7 ne modifiera pas son opinion sur l'échange, ont produit quelques tensions et créé une petite nervosité. La devise européenne cote en ce moment 1,30$23. Voilà, Claire, je vous rappelle le CAC 40 qui gagne 0,51% à 3868 points. À la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
Merci Cédric, vous écoutez France Inter, il est 14h03. Comme promis, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui, les monstres, deuxième partie.
J'ai vu le monstre, c'était comme une bête hurlante dans la nuit, avec un œil aussi gros qu'une lanterne de phare. Et son haleine, il soufflait comme une locomotive.
J'ai peur.
D'histoire. Depuis la mythologie grecque jusqu'aux films d'horreur et de science-fiction d'aujourd'hui, les monstres n'ont jamais cessé de nous faire peur. Mais quelle que soit l'époque, le lieu ou les civilisations qui les inventent, ils sont toujours laids, difformes, repoussants et cruels, et expriment partout la même chose. La peur qu'ont toujours eu les hommes devant ce qui leur est étranger et qu'ils ne comprennent pas. La peur de la mort, du noir, de l'inconnu, et de tout ce qui vit la nuit dans les profondeurs de la terre ou des océans, comme ce monstre que le capitaine Nemo était allé chercher 20 000 lieues sous les mers.
Si nous descendions au fond des mers, nous serions surpris de voir les créatures qui hantent ces lieux.
L'une d'elles pourrait-elle détruire ou entraîner un bâtiment sous les eaux?
Si elle était assez grosse, ce serait fort possible.
Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Cet animal n'est vulnérable qu'en un point entre les yeux.
12 mètres de la surface, capitaine.
Tenez-vous prêt.
Capitaine, un calmar géant à l'arrière.
Vitesse d'alerte, en avant tous.
Martine Lafont, bonjour.
Bonjour.
Alors, tous les lecteurs de Jules Verne connaissent le calmar géant de 20 000 lieues sous les mers, un monstre qui, contrairement à ceux dont nous avons parlé avec vous hier, n'est pas totalement imaginaire. Les calmars géants existent, mais s'ils font peur, c'est aussi parce qu'on ne les voit jamais. La caractéristique des monstres, réels ou imaginaires, c'est qu'ils vivent cachés.
Ils vivent cachés, mais attention, lorsqu'ils sortent et que c'est le moment, effectivement, de la pleine lune, attention. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils vivent surtout dans des endroits d'ombre et qu'ils n'aiment pas la pleine lumière, les endroits souterrains, les grottes, les cavernes, tout ce qui peut avoir son pendant de grouillement, de rampant, etc. Et ils ne sont pas beaucoup dans les cieux, qui est plutôt un symbole d'élévation, donc on trouve rarement des monstres tout là-haut dans le ciel. Mais ce qui fait peur aussi, c'est que tout ce monde souterrain, toutes ces abîmes de la Terre participent au secret aussi, au secret de transformation, à l'ésotérique, et donc... Voilà pourquoi ils choisissent plutôt ces lieux-là. Après les cavernes, les grottes et les souterrains, le monde souterrain, ils aiment bien aussi les forêts. La forêt est propice, on peut s'y cacher et puis surgir brusquement. Et c'est vrai que voilà des lieux qu'ils aiment bien et qu'ils hantent souvent pour nos plus grandes frayeurs.
La forêt, le domaine des loups, la mer aussi.
La mer, bien sûr.
Beaucoup de monstres sont des monstres marins, là encore, oui. Dans toutes les mythologies.
Dans toutes les mythologies, et les peuples, par exemple, comme les Mokènes, qui sont ce qu'on appelle les nomades de la mer, pensent qu'effectivement, que chaque fois qu'il y a un bouleversement, un bouillonnement de la mer, il s'agit d'un crabe géant qui est en train, justement, de se réveiller et de vouloir... profiter de cette sortie brusque et violente pour tout détruire.
Alors, ils vivent aussi, parce qu'on étudie, on va voir leur mode de vie aujourd'hui avec vous, ils vivent aussi dans les tombeaux, comme ce monstre célèbre qui faisait peur à tout le monde, mais qui lui-même n'avait peur que d'une seule chose, la lumière du jour.
me suis. Eh bien. Dépourvu de vie. Dépourvu d'âme.
Je ne comprends pas.
Détesté et redouté. Je suis mort. Aux yeux du monde.
Écoutez-moi.
Je suis ce monstre que les hommes de chair veulent tuer. Je suis. Dracula.
Et c'était un extrait du Dracula de Francis Ford Coppola. Dracula qui réunit à peu près toutes les qualités, si on peut dire, en tout cas toutes les caractéristiques de plusieurs monstres. D'abord, il suce le sang de ses victimes. Ça, beaucoup de monstres le font. Pourquoi?
Oui. Effectivement, les monstres ont parfois plutôt une mendication brutale, c'est-à-dire qu'ils déchiquettent, etc. Mais effectivement, ceux qui sucent le sang prennent aussi l'âme de leur victime. Donc, ils prennent la vie, l'âme, ils se nourrissent de ce qu'ils sont. Donc du coup, on trouve effectivement beaucoup de monstres qui préfèrent la succion à cette horrible mastication.
Donc quand on parlait hier avec les ogres, oui.
Oui, dont on parlait hier avec les ogres. Donc là aussi, ces êtres qui vivent la nuit, effectivement, pourquoi ils ne viennent pas à la lumière? C'est parce que ils n'ont pas d'ombre, donc ils seraient tout de suite repérés. On reparerait leur monstruosité, puisqu'on verrait qu'ils n'ont pas d'ombre. Donc
oui, voilà. Tous les monstres, ça on a vu où ils vivaient, mais enfin c'est vrai qu'ils sont plutôt, presque tous, des monstres nocturnes.
Nocturnes, oui. Parce que dans la mythologie grecque, effectivement, Nyx est la fille du chaos. Et donc toujours cette peur inconsciente ou cet imaginaire inconscient qui fait que on a toujours peur de revenir au chaos, que le monde qui a été organisé par les dieux, mis en ordre par les dieux, tout d'un coup par l'irruption du désordre revienne au chaos. Ça, c'est vraiment une peur originelle. Et du coup, les monstres surgissent du chaos, sont les fils du chaos. Mmh.
Ouais. Et les cérémonies monstrueuses, comme les sabbats sorcières, ça se déroule aussi la nuit.
La nuit, oui, parce que de toute façon, la nuit, nous, on perd nos repères. Hein, les humains perdent, on ne voit, on peut plus distinguer le vrai du faux. L'imagination galope, et c'est ce que on peut. Le moindre craquement fait peur. Parce que justement, dans cette indistinction de la nuit et des ténèbres, on ne peut plus rationaliser les choses. Alors effectivement, les sabbats et autres fêtes monstrueuses vont se trouver la nuit. Et aussi parce que la lune souvent est associée à ces fêtes, et on pense que la lune parfois est l'œil monstrueux d'un dieu, etc. Et puis aussi sa lumière blafarde, et puis comme elle renaît, elle meurt et elle renaît, etc. Elle participe du cycle de la vie et de la mort, donc elle est aussi associée aux femmes. Donc effectivement, la pleine lune va avoir une influence sur les monstres.
Alors la pleine lune, les lieux, parmi les lieux, il y en a un qu'on n'a pas mentionné, Martine Lafont, ce sont les cimetières, comme Dracula qui vivait dans un tombeau. En fait, le monstre exprime aussi la hantise de la mort et les fantômes. Hein. Au fond, le fantôme, c'est un être qui peut être à la fois, vous le dites, rassurant, parce que il prouve que l'éternité existe, qu'il y a une vie après la mort, et en même temps, c'est quelque chose de très inquiétant, parce qu'on a toujours peur de voir revenir les morts.
Oui, c'est-à-dire qu'on a toujours peur des mauvais morts, c'est-à-dire ceux dont la mort a été tellement brutale qui fait que on n'a pas eu le temps soit de les enterrer, soit de pratiquer des rites religieux sur leur corps, donc sur le défunt plutôt. Et du coup, la mauvaise mort est crainte absolument partout. Et justement, souvent, même chez nous, il y avait en Occident, on mettait un poids ou un outil sur le corps du mort pour que les mauvais esprits ne rentrent pas, ou que même l'esprit du défunt n'aille pas hanter le village, etc. Alors même en Afrique, quand on prenait un chemin pour aller au cimetière et un autre pour en revenir, pour éviter effectivement que le mort ne revienne parmi les vivants, si on ne lui a pas offert ce qu'il faut pour le nourrir, pour le contenter, et pour que lui aussi soient heureux dans l'autre monde.
Est-ce qu'on peut dire d'un mort ou d'un fantôme qu'il est un monstre? Caroline Lafont, avec votre mère, vous avez écrit ce livre, vous vous intéressez particulièrement aux fantômes.
Oui, en fait, moi, j'ai un peu travaillé sur le Japon, et pour continuer sur les fantômes, ce que je voulais dire, c'est qu'au Japon, il y a un vocabulaire très très précis et très particulier. Il y a plusieurs mots pour désigner fantômes, et selon les catégories, il va y avoir des fantômes gentils, des fantômes méchants, des fantômes qui sont là pour punir les humains. Et pendant le mois d'août, au Japon, il y a une saison qu'on appelle la saison des fantômes. Mmh. Et là, on va essayer de vénérer, de respecter tous ceux qui, peut-être, pourraient surgir et venir punir les vivants.
Oui, parce qu'on a tellement peur, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Martine et Caroline Lafont, on a tellement peur du retour des morts qu'au Tibet, par exemple, on ne les enterre pas, on les découpe en morceaux et on expose leurs restes aux vautours.
Aux vautours, oui. Oui, oui, puis c'est aussi une autre conception de la mort, c'est-à-dire qu'on apprivoise la mort en faisant ce rituel qui est pratiqué souvent par les chamans ou les moines, et effectivement, on va même se servir des os des défunts pour faire des colliers rituels, etc. Donc la mort, on sait très bien qu'il y a une renaissance aussi, donc on va apprivoiser la mort, et effectivement, le Dieu qui est maître de la mort est maître du temps, donc on essaye aussi de se concilier ses bonnes faveurs.
Et on essaye ainsi aussi de se débarrasser des morts, en tout cas de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas, comme l'exorcisme est celui et le moyen par lequel on chasse le diable du corps des sorcières.
Démon, démon, démon.
Dragon pervers, au nom de l'agneau immaculé qui écrasa le lion et le dragon, sort immédiatement de cette femme.
Qu'est-ce que c'est, dites-moi?
J'ai trouvé un ventricule
qui provient du cœur d'un enfant
sacrifié à l'occasion d'un sabbat de sorcière. Oh, une hostie consacrée.
Au nom de notre Père qui est dans les cieux, je te conjure, monstre exécrable et abhorré, par la vertu de cette sainte substance, de fuir-moi d'ici!
Et c'était le grand orchestre du Splendide, la salsa du démon, le démon qui a des poils partout, qui sent mauvais. C'est un monstre, le démon. On n'a pas tellement parlé, ni hier, ni encore aujourd'hui, Martine Lafont, mais il a vraiment toutes les caractéristiques d'un monstre. Tous les monstres ne sont pas des diables, mais tous les diables sont des monstres.
Oui, oui, tout à fait. Il est un monstre en ce sens aussi qu'il incarne le mal et qu'il va chercher non pas à rivaliser avec Dieu, mais surtout à entraîner les hommes dans le mal. C'est l'adversaire de l'homme. Donc, effectivement, il va essayer de posséder par des ruses, par des violences, etc. Celui qui est depuis l'origine de l'humanité son principal adversaire. Et effectivement, il est le maître des ténèbres, le prince des ténèbres, et le maître de l'enfer. Et c'est lui aussi qui va proposer dans l'au-delà quelque chose de terrible, des châtiments. Donc tout est fait pour annihiler l'homme.
Un des monstres les plus représentés, que ce soit dans l'art, la littérature ou même la musique, il y a beaucoup de photos dans votre livre, Martine et Caroline Lafont, dont beaucoup de diables justement. Et vous dites précisément une chose qui est assez curieuse, c'est que la représentation des monstres, c'est une manière précisément de les exorciser, de s'en débarrasser.
Oui, et puis aussi c'est une façon de dire, d'initier les gens. Enfin, ça a une vertu, j'allais dire, c'est une vertu morale, parce que la représentation du diable, c'est dire attention, si vous avez une vie de luxure, de concupiscence, etc., etc., vous allez être entraîné dans les enfers et les ténèbres, etc. Mmh. Donc du coup, la représentation du diable, elle a une vertu édifiante.
Alors cela dit, bon, par exemple des monstres, on en voit beaucoup dans les églises, ce sont les gargouilles, les masques aussi, les marionnettes en Asie servent à éloigner les monstres en les représentant, c'est ça?
Oui, c'est en fait plus si vous arrivez à définir le mal, à le représenter, vous allez pouvoir agir sur lui, ou tout du moins vous allez avoir un vis-à-vis. Vous allez savoir qui il est puisque vous l'avez représenté par un masque, par une marionnette ou par une figurine, etc. Donc là, il y a une possibilité d'agir. Si vous ne le connaissez pas, s'il est diffus, si vous ne savez pas où il se trouve et quelle tête, j'allais dire, il a, quel visage, quel corps et même quel maléfice et sortilège il peut lancer, alors vous n'avez aucune possibilité de le combattre.
Mmh. Au fond, le pire démon, c'est celui qu'on voit pas. Parce que oui. Le combattre aussi, c'est le sens d'un certain nombre de fêtes que vous mentionnez. Par exemple, le Nouvel An chinois, où on balade justement un dragon, ce qui est le monstre, si je puis dire, le plus populaire ou le plus connu de Chine, avec des pétards, avec des coups de cymbales, etc. Quel est le sens de cette fête du Nouvel An pour
alors,
les Chinois?
Effectivement, il y a une mythologie qui dit que Nian, ce démon ou ce esprit malfaisant, etc., on l'avait déjà débusqué avec des pétards. L'origine des pétards, en fait, serait de chasser ce monstre. Ça fait du bruit, ça fait peur.
C'est pas pour tuer des hommes, faire une arme, c'est une arme contre les démons, simplement. Oui.
Mais disons que tout au début, l'histoire raconte ou la légende raconte que c'était surtout pour chasser ce fameux monstre. Et donc le Nouvel An, qui est un renouveau normalement, fait que on recommence quelque chose, donc dehors les monstres et entre le bonheur, parce que c'est ça qui est proposé avec la nouvelle année.
Il n'y a pas qu'en Chine qu'on fait des fêtes pour se débarrasser des monstres, il y a aussi, je l'ai appris par vous, mais je suppose que tous les habitants de Tarascon le savent, il y a une fête à Tarascon qui cherche à se débarrasser en l'exhibant dans les rues, n'est-ce pas, d'un monstre qui s'appelle la Tarasque.
La Tarasque, oui, qui était une espèce de bête à tête de lion, avec le dos couvert d'épines, 6 pattes et puis une queue de serpent, et qui avait terrorisé les populations et que Sainte-Marthe avait réussi à tuer. Et donc, pour fêter cet événement, je crois qu'il s'était passé au solstice d'été, eh bien, chaque été, on ressort la Tarasque et en montrant le triomphe du saint sur la bête immonde.
Et grâce à Sainte-Marthe, hein, grâce au signe de croix qu'elle avait fait, grâce à de l'eau bénite, tout ça, ça fait d'ailleurs peur à un autre monstre, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Dracula. Il y a autre instrument, justement, pour se débarrasser des monstres et les faire fuir, c'est l'ail, par exemple.
Oui, l'ail qui ne marche pas, paraît-il, chez les Chinois, où il vaut mieux aussi des rituels plus propices. Mais c'est vrai que les hommes cherchent à se protéger du mal, de la souffrance, de la maladie, du malheur. Et comment le faire? Donc, on va essayer d'avoir à la fois des talismans, en Éthiopie, des rouleaux protecteurs. Et curieusement, les monstres vont revenir sur ces talismans comme contre-pouvoir, c'est-à-dire ces monstres contre monstres. La gorgone, la méduse qui pétrifie, va pétrifier la maladie. Donc, on va se servir des monstres, finalement, pour aussi conjurer le mauvais sort. Il y a un juste retour du monstre qui fait que là, il va avoir un effet de contrecarré des pouvoirs maléfiques.
Oui, parce qu'ils ont la vie dure, hein, malgré tous les remèdes qu'on a pu inventer ou les talismans qu'on a pu inventer contre les monstres. Mais il y en a qui survivent, qui continuent de vivre, et ils ont la vie dure, surtout quand ils font venir les touristes, comme ce monstre célèbre qu'on n'a pas fini de chercher en Écosse, France Inter, Yves Lejeune, le 31 juillet 1960.
Et maintenant, vous allez entendre deux histoires écossaises.
La première concerne, bien entendu, le monstre du Loch Ness, qui fait son apparition estivale et annuelle. La bête commence à sortir du mythe. Une expédition scientifique guidée par M. Ing, professeur à Cambridge, a réussi à le voir pendant 54 secondes. Il s'agit d'un charmant animal appartenant à la race des plésiosaures, long de 15 à 25 mètres et doté d'une tête petite mais gracieuse. Le reste est composé d'un corps, de quatre pattes palmées et d'une queue. La couleur est marron, le monstre vit avec sa petite famille, ils sont au moins quatre au fond du lac, se nourrit d'herbes et de saumons et a été baptisé Nessie. La suite à l'année prochaine.
Et c'était en 1960 une des apparitions récurrentes du fameux monstre du Loch Ness qui a, on ne sait pas très bien si Yves Lejeune qu'on vient d'entendre prenait au sérieux ce monstre du Loch Ness. Il fait plutôt marrer, il fait aussi venir beaucoup de touristes, vous le rappelez Martine Lafont dans votre livre. Mais cela dit, il fait encore peur à certains. À quoi correspond d'ailleurs de façon générale la peur qu'inspire le monstre en dehors de son aspect purement repoussant? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, l'irruption brusque du monstre trouble l'harmonie d'univers. Donc, si quelque chose ne va pas, alors tout est possible, comme ce retour au chaos. Et donc, c'est vraiment une peur viscérale de ça. C'est effectivement la peur de la mort, mais au-delà de cette peur de la mort, c'est qu'est-ce qui se passerait si finalement on revenait à l'indistinction la plus complète, c'était à quelque chose où l'humanité n'aurait plus sa place. Donc, on en a peur, mais à la fois on est attiré, parce que c'est vrai que la peur c'est une bonne chose, c'est ce qui nous a protégés contre quand on était chasseurs, cueilleurs, etc. C'est ce qui nous a protégés des bêtes sauvages. Et c'était un bon réflexe, la peur, hein. C'est ce qui permet de rester vivant et de se sortir.
Comme la douleur,
Oui, c'est de pas mal d'événements et de situations. Mais en même temps, il y a une peur de l'inconnu, de ce qu'on peut pas, qui est au-delà de l'imaginable finalement. Et c'est toujours quelque chose qui se situe dans des terres étrangères. C'est-à-dire que lorsque vous sortez des frontières du monde connu, eh bien là se trouve le monde des monstres. Et dans toutes les cultures, que ce soit en Chine, évidemment, la Chine aussi pensait qu'elle était le centre du monde. Donc dès qu'on sortait de son périmètre, il y avait cette peur de l'inconnu et cette peur de l'étranger, de l'autre. Parce que finalement, c'est vrai que cette peur des monstres, bêtes, énormes, Gévaudan, Tarasque, Loch Ness, elle fait partie de nos cauchemars et nos peurs infantiles, etc. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe quand l'autre apparaît, non plus comme un semblable, mais comme quelqu'un de différent dont j'ai peur. Il ne mange pas la même chose. Et là, c'est plus compliqué parce que c'est la porte ouverte à la non-acceptation des différences.
Mais aussi, il est très utile. Il y a quand même un bon usage du monstre. Hein. Si on l'a inventé, c'est pas pour rien. Par exemple, vous le dites, il va de soi que comme il incarne le mal pour la religion, eh bien le monstre c'est celui qu'on ne doit pas, auquel on ne doit pas ressembler, c'est celui auquel on vous livre si vous péchez. C'est aussi celui d'ailleurs qui peut se racheter. Vous citez par exemple deux monstres, Abominabilis, hein, qui sont cités par les écrits apocryphes de André, je crois, et qui dit que c'était un monstre abominable, mais oui, qu'il s'était converti et était devenu un homme formidable. Il y a aussi Saint Christophe, dont vous dites qu'il aurait été un monstre.
Comme quoi, il ne faut pas désespérer des monstres. C'est-à-dire qu'on peut, il y a dans cette idée aussi que le mal n'existe pas en soi parce qu'il y a une possibilité justement de rachat.
Même un monstre,
après tout, bon, alors effectivement, là, ça fait bien les affaires de la religion, mais en même temps, c'est une belle idée. Ça veut dire que, quelque part, rien n'est définitif, rien n'est irréversible, et que le monstre, si on a vaincu son ignorance, si on a vaincu sa violence, peut se tourner aussi.
Puis il stimule aussi le courage.
Les héros
de l'Antiquité, ben oui, Persée, Ulysse, Hercule, Saint Georges terrassant le dragon, ça c'est plutôt des héros finalement assez positifs. Le héros, je parle pas du monstre. Alors c'était vrai dans l'Antiquité, beaucoup moins aujourd'hui, que les monstres sont devenus parfois des objets de dérision.
Chez Monstres et Compagnie, l'avenir vous sourit.
Je suis un monstre et compagnie.
T'as vu, c'est Mémé.
Nous prenons soin de doter chaque enfant de son monstre idéal. De recueillir un cri de premier choix qui, savamment épuré, produira une énergie sans faille. Chaque fois que vous tournez un bouton, Monstre et Compagnie est là.
Je suis un monstre et compagnie.
Nous sommes conscients du challenge. Le temps de l'innocence est révolu. Effrayer un enfant relève du défi.
Nous travaillons aujourd'hui à des lendemains meilleurs.
Nous sommes la compagnie des monstres.
Nous sommes Monstres et Compagnie. Nous faisons peur et nous le faisons bien.
Et c'était un extrait de Monstres et Compagnie, un film dans lequel justement les monstres ne font pas peur. Vous avez beaucoup souri en écoutant cet extrait, Martine et Caroline Lafont. Effrayer un enfant, ça relève du défi, c'est ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. C'est vrai que on a l'impression qu'ils font plus peur, les monstres.
Oui, ces monstres-là font plus peur, mais d'autres font peur. Moi, je pense que il y a toujours des terreurs quand même. Les terreurs nocturnes, elles sont bien réelles. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que ça, les représentations se sont déplacées. Et puis, il y a eu toute une littérature enfantine où finalement, on voulait plus être ogre de père en fils. Hein. On voulait plus endosser la violence de ses parents, et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose.
Mais dans cette littérature, dans ces films, justement, les monstres deviennent humains, à moins que ce soit le contraire, hein, et que les hommes soient devenus des monstres. Au fond, qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouveau monstre après Auschwitz ?
Moi, je pense que c'est très compliqué de parler de monstres justement sur ce terrain-là, parce que effectivement, les monstres ont une existence imaginaire, et les hommes qui ont commis ces atrocités étaient bien réels. Donc, il y a une responsabilité qui est engagée, celle de l'homme, et dans les monstres, tout est, j'allais dire, représentation de l'imaginaire. Donc on n'est plus tout à fait dans la même perspective.
Merci Martine et Caroline Lafont. Je rappelle donc que vous êtes les auteurs d'un très beau livre, Les Monstres, l'imaginaire de la peur à travers les cultures, qui vient de paraître aux éditions La Martinière. Je signale également que Caroline Lafont est l'auteur d'un film coécrit avec Sylvain Van Écoute, La saison des fantômes, qui sera projeté le dimanche 20 février à 18h au cinéma des cinéastes à Paris. Vous avez pu entendre, puisqu'on parle de films, des extraits des films suivants, Les Diables de Ken Russell, Dracula de Francis Ford Coppola, 20 000 lieues sous les mers, bien sûr, de Richard Fleischer, et Monstres et Compagnie de Walt Disney et Pixar, disponible en DVD chez Buena Vista. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Alain Arnstam, Claire Destacan, Claire Tesser et Violaine Ballet, ainsi qu'à notre réalisatrice, Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la sortie du film de Martin Scorsese, Aviator, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Howard Hughes, nous parlerons de ce personnage étonnant de l'Amérique du XXe siècle, aviateur, milliardaire et collectionneur de femmes, Howard Hughes, bien sûr, et non pas Leonardo DiCaprio, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, comme Howard Hughes sur son hydravion.